Vous écoutez Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi.
Elles font le christianisme, une chronique proposée par Aurélie Netz. Épisode 2, Dorothée Zöhle. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui une théologienne allemande, protestante et féministe, Dorothée Zöhle. Elle est née en 1929 à Cologne. Elle a étudié la philosophie, la littérature et bien sûr la théologie et s'est engagée politiquement dans plusieurs mouvements sociaux. Elle a remis en question la religion autoritaire, la notion d'obéissance, la masculinisation de Dieu et le courant anti-juif dans le christianisme. Elle a souhaité une théologie libératrice, prenant en compte l'histoire, une théologie par en bas, mettant le christianisme face à ses limites. Et c'est possible. Elle s'est inspirée dans sa théologie des courants existentialistes, de la recherche en psychologie humaniste, pour valoriser une centration sur le sujet, sur la personne et sur sa réalisation. Ce n'est plus l'obéissance qui est centrale, mais la liberté et la responsabilité qui incombent à chacun et à chacune. Son travail théologique est conséquent. Elle a publié plusieurs ouvrages et articles en partageant son temps entre l'Allemagne et les États-Unis après avoir obtenu, en 1975, la chaire de théologie systématique à l'Union Theological Seminary de New York. Je vais donc approfondir avec vous un de ses textes traduits en français qui s'intitule « Père, puissance et barbarie. Questions féministes à la religion autoritaire ». Ce texte date de 1981 et est paru dans la revue catholique et œcuménique Concilium. Dans cet article, qui a pu sembler un brin provocateur, Zöhle décide d'analyser le terme de père, qui est employé et partagé dans la tradition judéo-chrétienne, pour parler de Dieu. Zöhle se demande si le terme de père pour qualifier Dieu est toujours souhaitable dans un contexte de libération, et quels sont les éléments du symbole de père qui restent bienfaisants. Zöhle rappelle que la théologie est un questionnement toujours situé, que toute question posée est imbriquée dans un contexte historique et bien sûr dans une subjectivité. C'est d'ailleurs comme femme allemande de la fin du XXe siècle, mariée deux fois et mère de quatre enfants, femme politiquement engagée et intellectuelle, qu'elle s'interroge sur ce terme de père. Pour elle, la généralisation de l'utilisation de ce terme concourt à une sorte de refoulement de l'expérience des femmes et de leur langage théologique, ce qui a été catastrophique pour celles-ci et pour le christianisme. Elle écrit « Le fait de réduire au silence les parts féminines de l'âme, la subordination imposée à tout ce qui sent la femme, a plus détruit le langage des théologiens que le monde séculier. » Elle s'interroge sur le choix de symboles et de représentations de Dieu associés à la puissance, que l'on appelle d'ailleurs souvent « Seigneur », et que l'on revêt de toute puissance. Pour Zöhle, penser Dieu comme père, potentat, maître, peut être destructeur pour les femmes dans ce que cela normalise une représentation de domination. Pourquoi devrions-nous vénérer et aimer un être qui ne dépasse pas le niveau moral de la civilisation actuelle, déterminée par des hommes, mais la stabilise, pose-t-elle. Car si les croyantes et croyants imagine que c'est Dieu qui a voulu la soumission au rôle féminin et aux règles qui en découlent, cela, dit-elle, détruit nos possibilités de devenir des êtres humains. Dieu est alors réduit dans une représentation qui justifie et perpétue une société inégalitaire. Pour Zöhle, ce terme de père n'est pas neutre, il découle directement de notre histoire humaine et est apparu dans un contexte historique. Le père décidé et déterminé juridiquement la maisonnée, les autres membres de la famille lui étaient attachés. Le père tenait donc les autres membres de la famille dans sa dépendance. En complément de cette puissance et autorité absolue et lointaine, Zöhle rappelle que l'idée d'un père bon, impliqué et miséricordieux est l'autre pôle autour duquel l'image du Dieu père se construit, et qui a peut-être d'ailleurs aussi quelques limites. Mais qu'est-ce qui est donc inaliénable dans l'image du Dieu Père? Pour Zola, la dépendance a été certes associée à un héritage répressif, mais elle fait aussi partie de notre condition de créature. Car est-on vraiment, en tant qu'être humain, indépendant, libre de tout lien ? Non, affirme Zola. Nous sommes dépendants d'abord de Dieu, et puis inscrits dans une histoire, dans un monde, dans une famille. Nous sommes issus de quelque part et nous tendons vers un but qui nous dépasse, mais toujours en lien. Pour Zola, c'est le terme Dieu, le Père des vivants, qui traduit le mieux ce lien fondamental de dépendance et d'amour. Donc, pour cette théologienne, penser Dieu comme Père, en tant que puissance génératrice, créant la vie, conservant la vie et mettant un terme à celle-ci, peut être libérateur lorsque cela est vécu comme confiance en Dieu Père et Mère, exprime-t-elle. En acceptant notre condition humaine de dépendance et d'interdépendance, de finitude et d'inscription dans une création bonne et désirée, alors nous nous ouvrons à d'autres possibles, explique-t-elle. En évoquant un Dieu Père et Mère, nous nous inscrivons, d'après Zola, dans la famille humaine et dans le cycle de la vie, au-delà des genres et des normes, dans la possibilité de poser des choix. Elle écrit « L'expression de Dieu Père n'est plus alors exploitée sociologiquement pour affermir la manière dont sont fixés les rôles et la fausse dépendance. Elle n'est plus utilisée pour faire de nous éternellement des enfants. Elle nous rend plutôt capables d'avoir confiance en la vie qui dépasse le temps de notre vie terrestre. » Et puis Zola, qui propose une théologie féministe et réformatrice, nous l'avons vu, explique que les femmes ont besoin aussi, à présent, d'autres symboles et d'autres espoirs. Zola raconte la tentative de renouvellement du langage liturgique lors d'un culte à Hambourg, durant lequel les co-célébrantes avaient commencé par ces mots « Que Dieu te bénisse et te garde. Qu'elle fasse briller sa face sur toi, qu'elle te donne la paix. Au nom du Père et de la Mère, du Fils et de l'Esprit. » Cela avait amené, vous l'imaginez bien, un débat animé entre les participants et les participantes. Pour Zola, chaque innovation est un pas hors de la prison. Il est donc souvent vécu comme une menace. Elle propose aussi d'autres expressions ou symboles à mobiliser, tirés des écritures ou de l'expérience, des symboles non autoritaires qui se rapprochent du langage théologique mystique où la domination n'est plus centrale. Des termes qui dénotent d'autres qualités de lien que la domination et la toute-puissance. Des symboles qui évoquent l'union, le tout, la profondeur et la complétude. Elle précise « Les symboles de la mer et de la nature sont préférés. Là où la relation à Dieu ne réclame pas l'obéissance, mais l'unification avec le vivant. » Le terme de mère est particulièrement apprécié par Zola, qui le reprend plusieurs endroits dans son article. Une manière, comme elle l'a écrit, de rendre hommage aux mères de la foi, dans l'obscurité, restée dans la préhistoire, non remémorée, oubliée, refoulée. Dans son texte, Zola précise que le langage ne décrit pas Dieu, que les symboles employés sont limités et que tout symbole qui s'érige en absolu doit être relativisé. C'est ce qu'elle nomme la « prison des symboles », qui enferme Dieu dans des représentations absolues alors qu'il, elle, les transcende. Comme nous l'explique Zola, Dieu ne peut pas être connu, car il, elle, n'est pas objet de connaissance. Et donc le langage et les symboles ont une valeur avant tout projective et politique. Ainsi, conclut-elle, le terme de père peut demeurer un des symboles s'il est relativisé et contextualisé. C'est sur ces paroles qui nous invitent à sortir nos représentations de leur prison et à oser la créativité que je vous remercie pour votre écoute. C'était Aurélie Netz, anthropologue, pour le podcast Des femmes et un dieu.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook Des femmes et un dieu ou à l'adresse mail desfemmesetundieu@vivaldi.net.